Amen. Merci d'être là et je voudrais qu'on ouvre ensemble notre Bible dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel. Comme je disais en introduction, si vous survivrez à février, là, avec les grippes, le froid, la pluie, la neige, vous survivrez toute l'année. Et c'est bien que votre voisin ait fait l'effort aussi de venir au culte de 9h30 en plus. Vous êtes des champions, vous êtes des héros. J'ai un sujet sur mon cœur, il est très fort et c'est dans le premier livre de Samuel que l'on va lire ensemble. Je voudrais vous parler d'un risque qui peut exister dans nos vies, c'est le risque que nos peurs, nos craintes, nos angoisses nous rongent progressivement notre paix, rongent votre joie. Et je pense qu'en tant que chrétien, même si on connaît Dieu, on doit faire face aux peurs et au stress de la vie. Et je pense que le plus grand combat, c'est le combat qui est dans notre tête. Parce que des fois, les ennemis, ce n'est pas les ennemis à l'extérieur visibles, c'est vraiment dans vos pensées, toutes vos craintes, vos angoisses. Et je ne parle pas seulement, je sais que c'est vrai pour les femmes et c'est vrai aussi pour les hommes, ça a d'autres formes, et je voudrais qu'on puisse étudier ce matin un petit peu ce phénomène. La peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un danger réel ou supposé. Réel ou supposé. La crainte devant un danger nous pousse à fuir, à éviter la situation. Les craintes modifient le comportement de quelqu'un. Donc, je voudrais vous dire que, en fait, je pense que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter non plus contre la chair et le sang, mais contre des puissances dans les lieux célestes, des autorités. Je crois que Dieu existe, je crois que le diable existe et qu'il peut aussi souffler sur un feu qui est dans votre cœur et qui est la peur. Et c'est une façon pour lui de s'infiltrer et de vous voler votre joie, voler votre paix. Le roi Saül, que l'on va étudier ce matin, est un roi dont la vie a été détruite par la peur. Il a détruit, il a laissé la peur détruire sa vie. Et on va lire ensemble à partir du verset 5 du chapitre 13. Pardon, 1 Samuel 13, verset 5. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des maladies auto-immunes? C'est quelque chose d'étonnant. Je me rappelle quand j'étais en terminale et que un professeur de biologie expliquait ça. C'est quelque chose de terrible, une maladie auto-immune. En fait, c'est votre organisme lui-même qui, en voulant chasser des microbes ou en voulant chasser quelque chose de mauvais, se met à s'autodétruire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le gendarme qui, voulant bien faire, tape tellement fort qu'il fracasse son propre corps. Et je pense que la peur, il y a de ça là-dedans. Vos peurs, à la base, elles sont là pour vous protéger d'un danger. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de Saül. C'est-à-dire que Saül a des vraies raisons d'avoir peur. Mais le problème, c'est que la peur va enfler en lui et va le pousser à s'autodétruire alors que la peur était censée le protéger au départ. Lorsqu'un petit garçon s'est brûlé une fois, il a peur d'aller toucher la casserole. Et la peur est bonne parce qu'elle vous protège. Elle évite qu'il fasse trois fois, quatre fois la même bêtise et qu'il finisse par être complètement brûlé. Mais il y a un moment où la peur peut vous tétaniser, vous bloquer. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un peut avoir, et c'est peut-être le cas d'un de vos proches, au niveau de la phobie, même des angoisses, il y a des personnes qui n'osent plus sortir dehors dans la rue, qui ont des peurs qui détruisent, qui les rendent complètement incapables socialement d'affronter les réalités, incapables de passer un examen, alors que vous avez largement le niveau, incapables de vous engager sentimentalement parce que dans votre tête, c'est perdu d'avance. Incapable de se présenter à un entretien d'embauche parce que, à peine vous avez mentionné le nom de l'entreprise, vous êtes arrivé devant le numéro 14 que les genoux craquent et vous repartez en bus. C'est ce qui va détruire la vie de Saül. Saül a une vraie ennemie qui s'appelle les Philistins, vous savez, le peuple d'Israël. C'est un peuple qui vient juste de rentrer dans le pays. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont très mal armés. Ils ont à peu près une stratégie militaire archi nulle. compétences à la guerre, ils n'ont pas la technologie du fer, donc ils se battent avec des bouts de bois quasiment un peu améliorés contre des Philistins qui, eux, maîtrisent la technologie du fer. Mais si sur le papier c'est perdu, quand on fait rentrer Dieu dans l'équation, c'est possible de gagner. Et le problème, c'est est-ce que tu fais rentrer Dieu dans ton équation de ta vie? Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3 000 chars de guerre et 6 000 soldats sur char. La galère, quoi. Ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme les grains de sable de la mer. Ils allèrent prendre position à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique. Car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains, les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galaad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül, à se disperser. On va arrêter là pour l'instant. Alors, réfléchissez un petit peu à votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, qu'est-ce qui vous stresse? Il y a des circonstances qui vous stressent. On a tous des boutons rouges. Si on appuie sur ces boutons rouges, ça met la panique dans la maison. Vous avez tous des situations qui peuvent vous faire extrêmement peur. Là, il a quand même un cumul de situations, hein. Par exemple, je pense à Saül, qui est le roi, donc il doit tenir l'armée. Quand il voit tout, les frangins avec les gros biscottos qui commencent à se planquer dans les buissons, ça ne vous donne pas le moral. Et il y a des moments dans votre vie où les circonstances sont dures et vos appuis vous lâchent. Vous voyez, je peux gérer une peur si jamais je suis avec mon épouse, qu'on est bien d'accord, qu'on vit bien les choses, qu'on fait bloc ensemble. Je peux gérer une peur dans l'église lorsque je sais que j'ai tout le conseil d'administration derrière moi qui va m'aider, qui est prêt à prendre. Voilà. Mais si en plus je me sens dispersé et abandonné, alors là, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'il y a déjà des bruits dans ma tête et les autres rajoutent du bruit dans ma tête. Parce que je commence à entendre ce qui se passe dans la tête des autres. Je vais plus loin, je vais creuser un petit peu. En plus, dans la situation de Saül, ça fait 7 jours qu'il attend que Dieu intervienne comme Dieu a promis. En fait, ce qui s'est passé avant et que j'ai pas lu, c'est que le prophète Samuel lui a dit: reste en paix, je vais venir et je vais faire l'holocauste, je vais offrir une offrande à la gloire de Dieu et Dieu te donnera la force et la victoire. Attends, reste en paix, j'arrive. Un jour, 2 jours. Et là, il y a les bruits de l'armée d'en face, les chars qui grossissent, les ennemis qui se concentrent. Et il y a les frangins qui commencent à franchir le Jourdain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a qui sont faits des exils fiscaux, mais juste pas pour échapper à l'impôt, pour échapper à la guerre. Parce que vous voyez, le pays d'Israël, vous savez qu'il y a la Cisjordanie, c'est de l'autre côté du Jourdain. Donc il y a déjà des frangins d'Israël qui se sont dit: ouh, là ça se passe mal de ce côté-ci. On va passer de l'autre côté, on va aller revoir les tatas qu'on n'a pas vus au pays depuis longtemps. Parce que ça va nous éviter un combat. Et donc, Saül, il se retrouve dans une situation qui ne fait que s'empirer. 5e jour, 6e jour, 7e jour. Et il y a une phrase, et je pense qu'on le vit tous. Il y a un moment, il dit, les soldats commencèrent à abandonner Saül. Vous êtes déjà senti abandonné? Abandonné par rapport à quelque chose qui vous angoisse. Ça, c'est en fait la peur la plus profonde. Je crois que dans l'être humain, depuis sa naissance, il y a quelque chose, depuis qu'il est sorti du ventre de sa maman, qu'il est sorti de ce petit ventre où il faisait des bulles, il était super protégé. Et tout d'un coup, on se sent tout seul. D'ailleurs, le bébé, quand il sort, il râle. Il commence par râler. On dit: ouais, pourquoi dehors? Il y a un sentiment d'affronter le réel seul. La peur d'être abandonné, la peur d'être lâché. C'est comme si dès le début, il crie: maman, t'as intérêt d'assurer, de rester là. Et je voudrais revenir au cas de Saül. Parce que vous allez me dire: mais pasteur, la peur quand des situations pareilles. C'est parce que il y a la peur, parce que la situation est mauvaise. Et j'entends tout de suite ce qui se passe dans votre couple. Vous dites, oui, mais pasteur, si jamais vous n'aviez pas mes galères financières, si jamais vous aviez ma galère financière, si jamais vous aviez le problème avec la voiture, etc., vous comprendriez que j'ai peur. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que tous les malheurs qui vous arrivent rajoutent à votre peur. Il y a une telle personne qui est à l'hôpital. Tout ça, ça rajoute votre peur à votre peur qui existait déjà. Et là, je veux qu'on soit honnête. Cette peur, elle existait avant la situation mauvaise. Et je vais vous le prouver. Saül, il a un problème avec la peur depuis toujours. Il a un problème avec la peur depuis toujours. Parce que si je connais ma Bible, je vois qu'au chapitre 10, alors qu'on l'annonçait à Saül qu'il allait être roi et que toutes les circonstances étaient favorables, il avait déjà peur. En fait, il avait peur que le bien lui arrive et il a peur que le mal lui arrive. En fait, il est structurellement dans la peur. Il est dans la peur quand on lui dit « tu vas avoir une promotion », il est dans la peur quand on lui dit « tu vas être rétrogradé ». Il a structurellement peur de tout ce qui change dans sa vie. Est-ce que tu peux être honnête avec toi-même? Est-ce que c'est vraiment à cause de la situation mauvaise ou c'est parce que tout simplement depuis peut-être longtemps, c'est enfoui dans ton passé, je ne sais pas qu'est-ce qui a provoqué ça. Et puis, il n'y a pas une égalité là-dessus. J'ai appris qu'il y avait une Américaine, on a fait des tests avec elle. Il y a une hormone dans son cerveau qui ne fonctionne pas bien. Elle est insensible à la peur. Et ils l'ont testé, ils ont fait, à l'heure actuelle, il y a des universités qui sont justement des tests avec cette personne pour essayer d'analyser son comportement. Cette femme est insensible à la peur parce qu'elle a une hormone qui ne fonctionne pas. Donc, elle comprend la joie, la patience, tous les phénomènes de... Ce n'est pas comme si elle était handicapée de tous les sentiments. Non, elle a tous les sentiments. Il y a le facteur peur qui a disparu de sa vie. Il y en a qui disent « Alléluia, j'aimerais trop ça ». Mais elle est juste incapable d'avoir peur. Il n'y a pas d'égalité. Il y en a, c'est structurellement. Depuis que vous êtes petite, mais la première fois que vous êtes allée en grande section maternelle, c'était l'horreur. La première classe, ça a été l'horreur. Et on n'est pas, il n'y a pas d'égalité. Il y en a qui ont moins peur. Si je vous demande de venir prendre le micro ce matin, il y en a qui vont arriver comme des champions. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire non, mais jamais. On n'est pas égaux devant la peur. Nous ne sommes pas égaux devant la peur. Alors, je veux creuser maintenant. Je veux creuser parce que je veux vous montrer qu'est-ce qui se passe quand tu as peur. Quand tu as peur, tu te fragilises toi-même. Deuxièmement, tu abîmes ta relation avec Dieu. Et troisièmement, tu risques de détruire les autres. Je répète, lorsque tu as peur, tu te fragilises toi-même. Deuxièmement, tu abîmes ta relation avec Dieu. Et troisièmement, tu peux détruire les autres. Est-ce que c'est possible d'avoir la photo des chevaux? Je ne sais pas si vous l'avez. Il y a, dans un champ de course, il y a la possibilité de mettre des handicaps sur les chevaux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du tiercé et tout ça quand ils étaient... Bon, bref. Et du coup, il y a des chevaux sur lesquels on met un handicap. C'est-à-dire qu'on met un poids supplémentaire. Du coup, ils ont le jockey qui pèse, mais on met un handicap sur eux, ce qui fait qu'on sait qu'ils vont courir moins vite. Eh bien, la peur, c'est des fardeaux que tu portes. Et je te mets au défi de courir vite si je te mets un sac à dos de 30 kilos sur les épaules. C'est exactement ce que tu fais tous les jours quand tu te lèves. Lorsque tu prends tes peurs et que dès le matin au réveil, tu dis « aïe, 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 comment je vais finir le mois ?» Ça ne t'a pas rendu plus riche. Ça t'a rendu plus lourd. Lorsque tu dis à propos de telle situation au travail, je ne peux pas gérer, etc., ça ne te rend pas plus fort, ça te rend plus chargé. Et Jésus dit, vous connaissez bien ce texte, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, mais qu'allons-nous manger ou boire? C'est dans Matthieu 6. Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Le corps ne vaut-il pas plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, est-ce qu'on peut lire ensemble d'ailleurs? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? C'est bizarre, notre tête le sait, mais notre trip n'arrive pas à le comprendre. Qui, par ses inquiétudes, peut rajouter quelques instants à la durée de sa vie ? Personne. Personne. La peur, ça te fausse tes perceptions. Ça te fait voir les choses qui ne sont pas. Et je pense que Saül, il voit les ennemis en énorme. Il voit les ennemis en énorme et ses moyens en tout petit. C'est comme si vous aviez, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des lunettes là, grossissantes, etc. Ça fait très mal à la tête d'ailleurs. Eh bien, vous devez avoir très mal à la tête à force de voir vos problèmes en si grand et vos capacités en si petit. Le danger là-dedans, c'est que la peur, c'est un phénomène qui tourne en boucle. C'est un raisonnement. Je lis au verset concernant ce que Saül va dire. Regardez, verset 12. Ah, on va prendre la suite. On va prendre la suite. Donc verset 9. On va prendre à partir du verset 9. On va prendre du verset 9 à 13. Alors Saül dit, amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et le sacrifice de communion. Il offrit lui-même l'Holocauste. Il devait attendre Dieu, mais il n'a pas attendu. Au moment où il achevait de l'offrir, donc Samuel, le fameux prophète, arriva. Saül alla s'en rendre compte pour le saluer et lui demanda. Samuel lui demanda, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Oh, quand j'ai vu que les soldats se dispersaient loin de moi et que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé que les Philistins étaient concentrés à Micmash, je me suis dit, hein, dans ma tête, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal, alors que je n'ai pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. » Ouf, 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 il y a plein de choses à dire là. Bon, regardez, ça tourne en boucle dans sa tête. D'ailleurs, qui c'est qui lui a dit qu'il fallait qu'il le fasse ? Lui-même. Ok ? Ok, regardez ce qui se passe. La peur va te faire prendre des décisions qui sont liées à ce que tu t'es dit toi-même. C'est même pas les autres qui lui l'ont dit. C'est dans sa tête, ça a tourné tellement qu'il s'est fini par se dire lui-même. Le livre de Job, vous savez que Job a été éprouvé terriblement. Hein. Et Job dit à un moment une phrase qui est terrible dans Job 3, 25, il dit « Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive, les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. » J'ai un collègue au lycée, on dit hypochondriaque, c'est ça ? Quelqu'un qui est tout le temps malade dans sa tête. Enfin, il pense tout le temps être malade dans sa tête. C'est Coluche qui disait, je crois, à 40 ans, si t'es pas malade, c'est que t'es mort. Parce qu'on a l'impression toujours d'être malade. Face à, pour certaines personnes. C'est triste. Parce que à force de toujours te tourner en boucle tes peurs, eh ben, tu finis par presque provoquer du malheur dans ta vie. En tout cas, Saül va provoquer du malheur dans sa vie parce qu'il va prendre une mauvaise décision. Il va prendre une mauvaise décision parce qu'il va se dire, étant donné que Dieu n'assure pas, moi je vais assurer pour lui. Étant donné que Samuel n'assure pas, le prophète n'est pas venu à l'heure, eh ben, je vais assurer pour lui même si je sais que c'est ce qu'il faut que je ne fasse pas. Je vais le faire quand même parce que je ne supporte plus l'idée de ne rien faire. Et là, c'est dangereux. Quand tes peurs sont en train de tourner en boucle dans ta tête et que tu dis « Attendre, j'arrive plus. Eh ben, je vais faire une bêtise, mais une bêtise que je contrôle. » Ouh. Je pense qu'il y a quelque chose de dangereux à dire « J'admets de faire une bêtise, mais au moins je la contrôle. » Vous savez, pour toutes les mauvaises décisions que l'on prend dans nos vies, la peur, elle est souvent quelque part. Je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire, mais je voudrais parler aux hommes, là. Dans des décisions que vous prenez, je pense par rapport à des hommes qui sont, par exemple, accros à la pornographie. Je parlais vrai aussi ce matin, mais je pense que beaucoup de femmes perçoivent ça comme une forme de il me trompe, ou bien du moins je le satisfais pas assez, il a pas assez, il me trouve pas assez joli, etc. Et elle se remet en question. Mais si j'analyse en profondeur ce qui s'est passé dans les personnes que j'ai vues parfois en entretien par rapport à ça, c'est la peur qui fait que le gars lui-même se dit, c'est idiot, hein, c'est idiot. Mais le gars étant dans la performance, il se dit, est-ce que je suis un bon amant? Et du coup, il y a quelque part sa peur de ne pas assurer, sa peur de ne pas être à la hauteur en termes de sexualité, au début, va le pousser à regarder. Oh, il va trouver des justifications, il va dire c'est de l'éducatif. Puis après, ça sera une dépendance. Et une dépendance qui est super dangereuse, parce que ça va le comparer à des acteurs. Enfin bref, c'est triste, ce monde-là. Et du coup, il se dira, je suis jamais à la hauteur. Et du coup, comme il n'est pas à la hauteur, eh ben, il est encore plus en retard. Donc, il faut qu'il regarde encore plus pour apprendre encore plus. Mais en voyant ça, il n'y en a jamais assez. Il ne sera jamais à la hauteur. Et du coup, après, il a peur parce que dans son couple, il dit ça ne marche pas. J'ai la peur que mon couple soit en train d'exploser, etc. Et quelque part, au fond de lui, le fait de vivre la sexualité dans la peur, ça le détruit. Vous aussi, mesdames. Combien, lorsque c'est la peur qui vous pousse à vous rapprocher de votre mari, la crainte, ça gâche tout. Il y a un moment, il faut affronter vos peurs et il faut en parler. Et pas en parler à soi-même, comme a fait Saül. Commencer à en parler aux autres. Et j'arrive au point le plus important, commencer à en parler à Dieu. Commence à en parler à Dieu, parce que tu risques d'être en danger pour ça. Vous voyez, je pense que la seule personne à qui Saül n'a pas parlé là, c'est à Dieu. Vous avez une façon de parler à Dieu qui s'appelle la prière. La prière. Je voudrais voir ce point-là. Pourquoi vos peurs abîment votre relation avec Dieu? Parce que lorsque tu as peur, tu focalises sur tout ce qui est extérieur, tout ce qui est apparence. Vous me suivez? Essayez de comprendre, je vais essayer de pousser un petit peu. J'espère d'être clair, mais la peur vous fait regarder ce qu'il y a autour. La peur vous fait regarder ce qu'il y a à l'apparence. Quand l'apôtre Pierre est sorti de la barque, il a commencé à regarder la mer et là, il a eu vraiment peur. Parce qu'il a focalisé sur les vagues qui commençaient à claquer contre la barque et il s'est dit, qu'est-ce que je fais en train de marcher sur l'eau? Je vais me noyer. Parce que quand il focalise à la profondeur et aux vagues, il est mort dans sa tête. Quand tu cherches des appuis extérieurs, il y a un souci. Parce que regardez le saut à l'élastique. Est-ce qu'on peut regarder le saut à l'élastique? J'ai essayé de trouver une image de quelqu'un qui veut sauter d'un pont. Vous avez déjà fait ça? Pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont déjà fait? Un, deux. Oh, une femme, super. Ah, deux hommes là. Eh ben dis donc, j'ai bien fait de prêcher le message sur la peur ce matin. Vous n'êtes pas très nombreux. C'est doit être terrible ça. Et en même temps, dites-moi, ça serait quand même débile de s'accrocher au pont en sautant, non? Vous voyez, s'il commence à sauter, mais en prenant la rambarde là où je ne sais pas ce qu'il y a, mais il va juste se fracasser la tête, c'est tout. Tu ne peux pas à la fois sauter et t'accrocher. Soit tu sautes, soit tu t'accroches, mais si tu fais les deux, ça va mal finir. Mais c'est ça ce qui se passe avec toi et c'est ça ce qui se passe dans ta relation avec Dieu. Tu pries et tu dis, Dieu, avec toi, alléluia, je saute, mais je me raccroche. Bang, la rambarde. À un moment, soit Dieu est le fil de ta vie, soit il ne l'est pas. Alors tu regardes, est-ce que tu as un fil ou pas? Est-ce que tu as quelqu'un qui dit, je prendrai soin de toi tous les jours? Est-ce que tu y crois ou pas? Je t'instruirai, je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. Ne sois pas comme quelqu'un sans intelligence qui regarde à droite et à gauche. Vous connaissez ce psaume? Est-ce que Dieu est Dieu ou il n'est pas? Est-ce que Dieu est votre Dieu ou il n'est pas? Si Dieu n'est pas votre Dieu, sautez pas! Sautez pas, d'accord! Mais vivez votre vie sans Dieu, soyez logique, ayez peur comme tout le monde. Et prenez des médocs, faites des choses, enfin, vous avez le droit de vous soigner, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il y a un moment où si jamais tu fais confiance à Dieu dans ta vie par rapport à ton travail, Dieu dans ta vie par rapport à ta vie sentimentale, tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais tu ne peux pas à la fois sauter en disant « Dieu, je te fais confiance, mais je vais quand même te donner un gros coup de main en accrochant la rambarde. » Parce que ce n'est pas un coup de main d'accrocher la rambarde. Le pont, est-ce que c'est possible de voir le pont? Le pont, il est haut. Hein. Moi, je. En fait, la taille, vous voir la taille, vous regardez les petits bonhommes là-haut. C'est les petits points turquoises là-haut. Ben, c'est la taille d'un bonhomme. Donc, c'est sûr qu'après, il faut savoir. Mais de toute façon, soyez honnêtes, mes amis. Votre vie, elle tient qu'à un fil, non? Que vous le vouliez ou non, votre vie, elle tient qu'à un fil. La maladie peut nous surprendre du jour au lendemain. Il peut nous arriver un accident de voiture. On peut voir toutes les peurs, toutes vos pires craintes. Elles arrivent. Elles peuvent arriver. C'est arrivé à quelqu'un un jour. Aller faire un stage dans un hôpital qui fait de la rééducation pour les accidentés de la route, c'est effroyable. C'est effroyable. Et surtout, on se dit, oh, je ne veux même pas y penser. Mais à la base, notre vie tient qu'à un fil. Et si on s'arrête là, c'est horrible. Maintenant, si je sais que ce fil, c'est un fil qui s'appelle Jésus, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne vous inquiétez pas. Ne promenez pas des regards inquiets. Comme je vous ai dit la semaine dernière, Dieu est déjà en juillet 2013. Il a déjà fait le mois de septembre 2013. Il a déjà fait le réveillon de l'année qui vient. Parce que Dieu a un temps d'avance. Il connaît tout. Il est Dieu. Il est omniscient. Alors moi, je me dis, ce fil, s'il est solide, j'y vais. Mais il ne faut pas que je mette ma confiance dans la rambarde. Je peux vous lire un verset que vous connaissez bien. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, est-ce que quelqu'un pourra nous arracher à l'amour de Christ? Est-ce que la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée? Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. C'est l'apôtre Paul, il est en prison quand il écrit ça. Il a été frappé, il a certainement plein de privations, et ce n'est pas des mots abstraits quand il dit ça aux Romains. Et il dit, j'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Wouh! Wouh! Le fil, c'est même pas un fil en Kevlar, c'est un fil extraordinaire. Personne ne peut arracher le fil. Et le fil, il n'est pas accroché à vos pieds. C'est un fil de cœur à cœur. Pourquoi je dis que la peur détruit votre relation avec Dieu? Parce que la peur, elle fait que vous substituez l'amour qui est votre fil de vie, vous le substituez avec des trucs comme des rambardes. Lorsque vous faites pas confiance à Dieu, il y a vraiment un danger. Parce que vous appuyez sur les circonstances au lieu de vous appuyer sur la parole de Dieu. Est-ce que ça vous arrive de vous appuyer sur les circonstances plutôt que sur la parole de Dieu? Oui, je sais, Dieu, que tu veux me bénir, mais là, je vois pas. Donc, je vais te donner un coup de main pour être sûr que le saut soit assuré. Et là, il y a un danger. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. C'est 1 Jean 4, ça. Car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. Mais l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas parvenu à sa pleine maturité. Je sais, je ne veux pas vous culpabiliser parce que moi aussi j'ai des problèmes avec la peur. Mais là, la seule solution, c'est Seigneur, renforce mon amour pour toi. Renforce ma foi en toi. Renforce ma absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, rien ne pourra me séparer de ton amour. Vous savez ce qui se passe lorsque vous n'avez plus de votre relation avec Dieu? Est-ce que vous croyez vous quitter l'Église? Non, j'ai quelque chose à vous dire. Vous ne quitterez pas l'Église. Vous allez devenir un chrétien superstitieux. Est-ce que Saül a offert le sacrifice? Oui, il a offert le sacrifice. Saül a offert le sacrifice. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si jamais je vais au combat sans avoir offert un sacrifice, on va se prendre une raclée. Donc, il va continuer à avoir des actes de religieux sans avoir confiance en Dieu. Il va aller au culte ce jour-là, mais pas pour rencontrer Dieu et faire confiance à Dieu. Il va aller au culte ce jour-là pour être sûr qu'il ne va pas rater la semaine qui va derrière. Il va venir apporter son offrande, mais en se disant, c'est une façon de pouvoir dire à Dieu, hey Dieu, j'ai payé. Vous voyez, là, ça devient superstitieux. Parce que vous ne rentrez pas du tout dans une relation d'amour pour Dieu. Ce que vous le faites pour être sûr qu'il ne vous arrive pas le malheur pire derrière. Et beaucoup de chrétiens perdent leur relation d'amour avec le temps qui se substitue, au lieu d'être un fil d'amour, ça devient un fil de superstition. Et vous continuerez à faire des choses pour Dieu, mais vous les ferez avec un état d'esprit en disant, Seigneur, je fais ça pour qu'il ne m'arrive pas d'histoire. Alors, excusez-moi, mais il n'y a rien de mieux que les... C'est comme les gris-gris, vous n'avez rien de plus qu'un marabout, c'est tout pareil. Dieu est un marabout qui s'appelle Dieu, c'est tout. Mais si vous venez et vous pensez que vos actions vont pouvoir protéger le sort qui arrive derrière, parce que vous avez Dieu pour vous, il y a un petit souci. Moi, si j'apporte un sacrifice, c'est parce que je dis Seigneur, wouh, tu es Dieu. Et le combat, ce n'est pas mon combat, c'est ton combat. Alors je te le confie et je peux déjà faire un sacrifice de louange avant la bataille, parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et du coup, vous avez une position de foi. Allez, je termine avec la peur qui peut abîmer ta relation avec les autres. Vous êtes là encore ce matin? Dernier texte dans 1 Samuel 20. 1 Samuel 20. On n'est pas très courageux des fois. Peut-être qu'on est même angoissé. Nos angoisses vont commencer à modifier notre caractère vis-à-vis des autres. Saül a donné sa fille en mariage à David. Mais Saül a peur que David lui prenne sa place. Avant, il avait peur de perdre la bataille. Avant, il avait peur d'être roi. Maintenant qu'il est roi, il a peur de ne plus être roi. Donc, il a juste peur que David prenne sa place. David alla donc, c'est au verset 24, se cacher dans la campagne. Le soir de la célébration de la nouvelle lune, le roi se mit à table pour le repas. Il s'assit comme à l'habitude sur le siège adossé au mur qui lui était réservé. Jonathan, donc ça c'est le fils de Saül, se mit en face, Abner à côté de lui. La place de David resta vide. Saül ne fit aucune remarque ce jour-là. Il pensait qu'il avait dû contracter accidentellement quelque impureté rituelle. Certainement, il n'est pas pur, se disait-il, à propos de l'absence de David. Mais le second jour, la nouvelle lune, comme la place de David restait encore inoccupée, Saül demanda à son fils. En fait, Saül, il a un projet derrière. Il dit, pour éviter de me faire piquer le trône, eh ben, je vais le tuer. Comme ça, au moins, il ne pourra pas prendre le trône. Et quelque part, il invite David à un repas. David ne vient pas. Ça l'énerve. Mais le second jour de la nouvelle lune, comme la place de David restait encore inoccupée, Saül demanda à son fils Jonathan, pourquoi le fils d'Isaïe n'est-il pas venu au repas ni hier, ni aujourd'hui? Jonathan répondit, David m'a demandé avec insistance la permission d'aller jusqu'à Bethléem. Il m'a dit, laisse-moi partir, je te prie, car nous devons célébrer un sacrifice de famille à la ville, et mon frère m'a ordonné d'y assister. Veuille donc m'accorder cette faveur de pouvoir m'absenter pour voir mes frères. Pour cela, il n'est pas venu à la table du roi. Bon, l'excuse est bonne. Alors Saül se mit en colère contre Jonathan, son propre fils. Il cria, fils de chienne, fils de rebelle! Crois-tu que je ne sais pas que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe à ta honte et à celle de ta mère? C'est pareil, hein, rien de nouveau dans les familles. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie, tu ne pourras pas t'imposer ni établir ta royauté. Imbécile, t'as pas compris que c'est toi qui après. C'est pourquoi fais-le chercher et ordonne qu'on me l'amène sans retard, car il mérite la mort. Et Jonathan répliqua à Saül, son père, mais pourquoi devrait-il mourir? Mais qu'a-t-il fait? Alors Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père avait fermement décidé de faire mourir David. Il se leva de table dans une grande colère, ne mangea rien ce jour-là, car il était trop affligé à cause de la manière injurieuse dont son père avait traité David. Wow! 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 Saül, t'as pas réglé tes problèmes et tu détruis toute ta famille. Tu détruis le mariage de ta fille, tu détruis ton fils, tu détruis ton gendre, tu détruis tout le monde et tu te détruis toi-même. D'abord, tu t'es détruit toi-même. Tu as perdu les opportunités de Dieu. Ensuite, tu as perdu ta relation avec Dieu. C'est ce que l'on a vu. Tu as remplacé le fil qui était Dieu par ton stress, par la superstition. Et puis pour terminer maintenant, c'est ta famille que tu détruis. Ah, vous savez, la peur, ça a un mérite. Hein. Ça vous donne des forces des fois. Quand vous avez peur, il peut y avoir de la colère. Et s'il y avait de la colère, vous êtes capable de lancer une lance beaucoup plus loin. Vous êtes capable, je peux vous dire, si vous avez peur de quelque chose. Vous, mesdames, puisque j'ai parlé aux hommes tout à l'heure. Quand vous avez peur, votre langue, elle est juste démultipliée. Vous avez un vocabulaire qui... Vous avez trois langues d'un coup. Trois langues d'un coup. Vous pouvez exprimer votre peur en langue maternelle, plus en français, plus un dialecte quelconque que vous avez appris entre-temps, ou bien la façon de jurer de votre collègue au travail. Donc vous avez plein de façons, tout d'un coup, plein de mots qui viennent pour exprimer votre peur. Ah, ça vous donne des forces nouvelles. Je peux vous dire que si vous avez vraiment peur, vous êtes vraiment angoissé, vous êtes percutante. D'ailleurs, votre mari, il ne moufte plus après ça. K.O. en quatre phrases. Il est devant la télé, il a éteint son cerveau, mais il a allumé la télé. Il ne peut pas répondre. Donc oui, ça vous donne une certaine force, la peur. Ah, ça vous donne de la force. Votre fille de 12 ans, elle est partie pleurer dans sa chambre, elle arrête de vous embêter. Hein. Il n'y a pas de souci, elle a éteint la télé, elle a fait ce que vous avez dit. Ah, nickel. La peur te rend dur avec tes proches. Vous savez le problème de Saül, depuis toujours. Et on revient toujours à cette solitude et à cette... ce sentiment de ne pas être soutenu. Ouf, je parle à quelqu'un ce matin. Ouf. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a toujours l'impression de ne pas être soutenu? Ça peut être dangereux. Parce que même si c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, mais si vous développez ce sentiment, vous pouvez risquer la paranoïa de Saül. Saül, il s'est dit, « Punaise, mon fils me lâche. Ma fille me lâche. » Ce tordu de David, il pique ma place et il n'y a personne qui m'aide. Et dans sa tête, il a raison. Il a même raison de tuer David. Parce que c'est sa peur qui le fait agir. Et parce qu'il dit, je sauve mes gamins. Il les perd en faisant ça. Mais dans sa tête, il les sauve. Vous comprenez l'idée? Il détruit le mariage de sa fille et il pense faire une faveur. Vous savez qu'il y a des parents qui détruisent le mariage de leurs enfants. Oui, mais celui-là, je ne le veux pas, etc. Mais il est déjà marié, qu'est-ce que tu vas arrêter là-haut? Tu ne changeras rien, là. Oui, mais il n'est pas de ma langue. Et j'étais sûr depuis le début, il y allait avoir des problèmes. Tu vois, c'est pas la bonne ethnie, machin, etc. Et tes peurs, tu vas bouffer le mariage de l'autre. Ah, tu vas garder ton petit chérubin, qui n'en est plus un, hein, d'ailleurs. Mais tu vas détruire sa vie. Ah, il va revenir après toi, à 34 ans, il va retourner à la maison. Très bien, gros progrès, maman a récupéré bébé. Super. C'était pas l'objectif. Tes peurs ont détruit son couple. T'as rien gagné, t'as eu peur, c'est tout. Et comme t'es forte à cause de tes peurs et à cause de ta vie, t'as des arguments et tu peux même détruire. Et tu es dangereuse parce que justement, ta peur te rend puissante. Ta peur te rend puissante. Te rend puissant dans tes conversations. Et Saül, ta peur te rend puissant. Et en plus, comme Dieu t'a béni, tu vas utiliser la bénédiction de Dieu qui s'appelle la royauté que tu as pour être capable de faire des choses et des plans et des manipulations parce que tu as les moyens d'assouvir tes peurs ou du moins de les évacuer en faisant quelque chose pour arrêter la peur. Mais cette peur, elle te suivra jusqu'au bout. Saül, il est mort. Il est mort en tremblant. Il est mort et le dernier jour de la vie de Saül, il va, lui qui était un roi loin de Dieu, il va aller chercher une magicienne à Endor pour lui dire « Est-ce que je vais mourir ou pas ?» Jusqu'au bout, ses peurs l'ont bouffé. Jusqu'au bout, ses peurs l'ont tétanisé. Jusqu'au bout, ses peurs ont détruit sa vie. On détruit sa relation avec Dieu, on détruit la vie de ses proches, il a tout perdu. Et ce jour-là, sur le mont Gilboa, il amène Jonathan à la boucherie avec lui. Et il amène son fils qui, ce jour-là, va mourir avec lui parce que papa n'a pas géré sa peur. On va fermer les yeux ensemble. Je pense qu'il est important ce message ce matin, et je voudrais que tu fermes les yeux et que tu te places devant Dieu. Est-ce que le diable est en train de jouer avec mes peurs pour me voler ma joie, me voler ma paix, oui ou non? Est-ce que ces peurs, ces inquiétudes me rendent la vie plus belle ou pas? Est-ce qu'elle rajoute de la durée à ma vie? Je pense ce matin que la seule solution, c'est que tu refasses depuis le début. Quand tu étais enfant, tu avais un besoin terrible. C'est le besoin de pouvoir connecter avec tes parents. Et bien de la même façon, il y a un Père dans le ciel. Il y a un Père dans le ciel. Et oui, il y a de l'humilité là-dedans, mais revenir, Seigneur, et viens me protéger, viens m'abriter. Seigneur, je veux te faire confiance. Je suis sous tes ailes, je suis gardé par toi. Ouh. Tu es Dieu et tu contrôles demain. Alors je ne m'inquiéterai pas pour demain. Chaque jour suffit sa peine. Et puisque c'est Jésus qui l'a dit, je peux redire cela, chaque jour suffit sa peine. Et puisque c'est un verset de la Bible, je peux redire, chaque jour suffit sa peine. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut prendre position? Parce que je ne veux pas que vous repartiez comme ça sans que rien n'ait changé. Seigneur, j'ai un problème avec la peur. Je veux me lever devant toi, s'il te plaît. S'il te plaît, viens retisser une relation d'amour et pas une relation de superstition. Mets-toi debout à ta place si tu es concerné. On ferme les yeux, ça te concerne toi. Si quelqu'un a un problème avec la peur, tu vois que ta semaine a été difficile parce que tu as peur de ceci, peur de cela. Lève-toi, lève-toi. Ouh, alléluia. Seul, je me confie. On va se lever tous ensemble.
En Jésus seul.
En Jésus seul.
Alléluia.
Je me confie,
Seigneur. Je te confie mes enfants, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te confie le travail, Jésus. Je te confie ma vie à l'église, Seigneur. Je confie mon ministère, mon service, Seigneur.
Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu avec toi.
entends la voix de Dieu dans ton cœur qui te dit cette fois où tu avais peur là, tu te rappelles, ben, j'étais là. On l'a passé cette tempête ensemble. J'étais là. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je tiens le fil de ta vie. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon mon bienveillant dessein. Alléluia. Alléluia. Tends tes mains vers Dieu. On va reprendre une dernière fois. Abrite-moi, Seigneur. Abrite-moi, Seigneur. Abrite-nous ce matin. On n'est pas des champions, Seigneur. On a besoin de toi, tout simplement. Oh, Jésus. Un pacte avec Dieu ce matin. Je me confie en toi, Seigneur, dans cette situation. Confiance, Seigneur. Tu gères, Seigneur. Restez debout, vous tous qui voulez, pendant que les frères s'avancent pour la Sainte Cène, j'ai envie de chanter au Dieu, tu es infiniment grand. Alléluia, on peut reprendre ce cœur qu'on a chanté tout à l'heure. Alors que les frères s'avancent pour venir pour la Sainte Cène, examine ton cœur et on reste debout si vous avez à cœur de partager ce repas. Vous avez examiné vos cœurs, vous considérez que la Bible est la parole de Dieu, que la Bible est supérieure à vos circonstances. Vous considérez que Jésus, à la croix, a payé pour votre péché. Vous êtes engagé, vous êtes mouillé pour lui. Vous dites, je te suivrai, Seigneur. J'ai fait ce pacte et je le tiens et donne-moi la force de le tenir. Mais aujourd'hui, je renouvelle mon engagement avec toi. Alléluia. Dieu, tu es infiniment grand, infiniment puissant, éternel, glorieux.
Mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier. Chanter,
tu es grand Seigneur,
oh Dieu, tu es.
Alléluia.
J'entends des adorateurs dans la place ce matin, des gens qui se confient au Dieu. Alléluia, il y a des adorateurs ce matin de Dieu.
Vois majestueux.